France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
En fait, la végétation a raccourci son cycle avec les chaleurs. On le voit, nous, en tant que producteurs.
Réflexion sur l'avenir du vin français.
Le vin, c'est la terre, c'est le ciel, c'est les hommes.
Le vin, finalement, il aura le goût qu'il aura, parce qu'on n'aura pas le choix, il faudra s'adapter.
Aujourd'hui, la vigne hybride est encore interdite. C'est pourtant une solution évidente aux problèmes écologiques que le monde traverse.
Le vin, c'est la nature.
Peut-être qu'on ira chercher nos raisins en haut des arbres, comme ça existe d'ailleurs hein, dans des vignobles en Italie. Le goût, on verra.
Qui dit vin, dit pot de vin.
Ouais.
Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont va déguster. À quoi ressemblera le vin en 2050? Quel goût aura-t-il? Il est urgent de se poser la question. À l'heure où le changement climatique met au défi le vignoble français, des raisins qui gèlent et qui brûlent, des vendanges historiquement précoces, des appellations menacées. Face à ces bouleversements aux conséquences souvent dramatiques, la filière viticole s'organise et cherche des solutions. Faut-il s'orienter vers d'autres cépages plus résistants? Doit-on changer de pratique culturelle dans la vigne? Et au fait, planter du raisin dans de nouveaux territoires plus adaptés climatiquement, c'est pour quand? Eh bien, c'est pour maintenant. C'est ce qu'on va voir avec nos invités du jour. Julie Reux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, située, localisée près de Nantes, installée près de Nantes, hein, dans le vignoble du Muscadet, où vous avez fondé Vino Futur, un nouveau média sur le futur du vin. C'est un média papier, je l'ai à mes côtés, indépendant, passionnant, qui a pour objectif d'informer et d'inspirer professionnels et amateurs du vin pour les aider, c'est bien ça, à s'adapter au mieux au bouleversement climatique.
Exactement.
Et c'est aussi une newsletter Vino Futur. Pour en savoir plus sur ce média, vinofutur.fr. Et, mais aussi pour un abonnement qui coûte combien?
La newsletter, c'est gratuit.
Et le
journal coûte 5 euros.
Le journal coûte 5 euros et il est fort intéressant. Vous collaborez aussi régulièrement à la Revue du Vin de France.
Tout à fait.
Valentin Morel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vigneron à Poligny dans le Jura depuis moins de 10 ans, hein, quand même. Première vendange en
2014.
À la tête du domaine Les Pieds sur Terre. Vous revendiquez des vins biologiques et naturels et vous défendez ce que l'on appelle, attention, le mot est lâché, les cépages hybride, on va le voir, des cépages souvent brocardés, mal considérés dans le milieu du vin en France, et qui pourraient être, en tout cas c'est la thèse que vous défendez, une véritable solution pour faire face justement à la crise écologique. Vous venez de signer ce plaidoyer sur les vins hybrides dans un essai chez Flammarion, un autre vin, comment penser la vigne face à la crise écologique, vous allez nous en parler. Un de nos chroniqueurs vins s'intéresse beaucoup au futur du vin. C'est même lui qui m'a suggéré l'idée de cette émission, Dominique Hutin. Bonjour.
Bonjour.
Alors, faire du vin là où on ne pensait pas vraiment pouvoir en faire, par exemple?
Oui, par exemple, oui. Mais je reviens du futur, là justement, j'ai un scoop, il fait chaud. Il fait très chaud.
Il fait très chaud. Il y a quelques perles de sueur sur votre front.
Oui. Non, mais effectivement, si on veut se projeter un peu sur ce qu'est le futur, on peut considérer deux trucs. Boire un verre de vin, c'est un instant fugace. Par contre, planter une vigne, c'est une projection, c'est un pari que forment les vignerons sur plusieurs décennies, des générations même. Et je peux vous rapporter juste une intuition. Il faudra que l'avenir du vin soit créatif ou il ne saura pas.
Très bien.
Ou il ne saura plus, d'ailleurs.
On va voir ça avec vous. Et également avec nous, notre chef chroniqueuse Manon Fleury. Bonjour.
Bonjour.
Ça va, Manon?
Très bien. Et vous?
Vous nous parlez de quoi aujourd'hui? Ça va?
Une polenta française,
oui.
Avec une graine un peu particulière, mais cuisinée à la manière d'un risotto, donc c'est un peu le bordel.
Oui, mais ça va être délicieux. Et c'est déjà en train de réchauffer dans les casseroles dont on va déguster sur la plaque de cuisson dans notre studio 611. Pour interagir avec nous en direct, un mail à Dominique Hutin. Hein. C'est vous qui allez vous en occuper des réactions de nos auditeurs. Il va y en avoir pas mal, à mon avis. On va déguster à radiofrance.com ou bien le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Pour retrouver tous les contenus de l'émission, nos recettes, nos podcasts, nos bonnes adresses, rendez-vous sur franceinter.fr à la page. On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Je cite... À l'horizon 2050, le changement climatique aura modifié à la fois les conditions de production des vins, leurs caractéristiques organoleptiques et leur marché. C'est ce que l'on peut lire en introduction du rapport stratégique de la filière viticole française qui fut remis en 2022 au ministre de l'Agriculture. Alors je vous propose tous les trois de se projeter un peu à échéance de 2050 ou 2070, par là, dans quelques décennies. Finalement, c'est demain. Imaginons que nous débouchions ensemble une bouteille de vin, si tant est, oulala, c'est aussi une question ça, que la bouteille en verre existe encore. À quoi pourrait ressembler le vin que l'on boirait ensemble, quelle que soit sa provenance, son origine? Quel goût aurait-il, Valentin, Morel?
Je vais faire un pari. C'est sûr que si on part sur les mêmes cépages qu'actuellement, on peut parier sur des vins un peu moins acides, plus alcooleux, etc. Je pense que dans toute l'histoire de l'humanité et de l'agriculture, l'homme a sans cesse adapté ses pratiques au climat, à l'évolution du climat. Et quelle que soit la brutalité en fait du changement et du dérèglement climatique, je pense que là aussi il y aura une adaptation et un changement des cépages. Donc je fais le pari avec vous que peut-être qu'on aura des vins finalement peut-être tout aussi acides et moins alcooleux, car on aura su sélectionner des cépages peut-être plus tardifs, plus acides et moins précoces. C'est un pari.
C'est ce que l'on va voir avec vous, très intéressant. Vous écrivez, Julie Reux, dans un passionnant article que vous avez rédigé pour tout savoir sur les vins bio. C'est un hors-série de la revue du vin de France qui est en kiosque en ce moment, avec notamment une large place consacrée aux enjeux climatiques. La hausse des températures, qui est une évidence, hein, on le sait, conduit la vigne à des maturités plus précoces et donc des vins moins acides au degré d'alcool plus élevé. C'est à ce genre de vin qu'il faut s'attendre demain ?
Oui, de toute évidence. Et en fait, quand on parle du vin du futur, faut déjà commencer à faire le deuil, j'arrive avec des termes un peu tristes, mais à faire le deuil du vin qu'on connaît aujourd'hui.
Déjà. Carrément.
Bah oui, à un moment, il faut accepter.
Se faire à l'idée que les vins qu'on a l'habitude de boire aujourd'hui n'existeront peut-être plus.
Non,
plus
on
sous
pourra
cette forme.
Toujours les boire, mais ce sera les vieux vins. Mais oui, c'est déjà commencer par là aussi, accepter ça et puis commencer à réfléchir au futur. Voilà, accepter l'idée que si le climat change, si les cépages changent, on va en parler, si les terroirs changent, si les règles changent, à un moment, le vin sera différent et c'est très bien, peut-être.
Dominique Hutin, dans On va déguster, en 2050, quel vin apporterez-vous en studio ?
Ah, un vin que vous aimeriez, et je ne connais pas encore votre goût de vieillard, en l'occurrence.
Et boum !
Non, je pense qu'il faut se projeter avec des nouveaux imaginaires, c'est ce qu'ont commencé à implanter nos deux invités. Et j'entends par nouveaux imaginaires des nouveaux épicentres géographiques. Peut-être qu'on va regarder un peu plus vers la Normandie, vers la Bretagne, vers les Hauts-de-France, par exemple. On va aussi utiliser d'autres techniques, d'autres moyens. Alors, on peut penser à la wine tech. La wine tech, elle est déjà en route. Hein. Il y a des robots qui sont dans les vignes, qui vont tailler les vignes. Oui, absolument.
Des drones qui vont surveiller tout ça.
Mais qui sont déjà là, qui sont des appuis intéressants pour les vignerons, pour voir les zones qui sont en déficit de hydrique, qui sont en déficit de maturité, etc. Et puis on aura peut-être recours aussi ce moyen de faire du neuf avec de l'ancien, replanter des arbres, par exemple. La société entière est traversée par les considérations environnementales, les villes même, la question de l'arbre, rafraîchir, trouver de l'ombre. Donc on va avoir une espèce de plaque tectonique avec des moyens anciens qu'on va ressusciter. On a bien parlé de cépages des temps anciens qui peut-être avaient un sens, et puis aussi des technologies nouvelles, voilà, des nouveaux imaginaires.
On va essayer d'aborder justement toutes ces solutions et ces questions avec vous. Julie Reux, vous êtes donc journaliste indépendante, vous prenez à bras le corps cette question brûlante de l'avenir du vin. Alors vous choisissez 50 ans, hein, c'est à peu près, vous décidez de vous projeter avec votre média Vino Futur à 2072.
Exactement.
Et évidemment, c'est un prospectus, un média qui brasse beaucoup, beaucoup de questions. Vous signez également une enquête donc sur le changement climatique dans le hors-série de la revue du Vin de France en kiosque. Et là, vous dressez une espèce de constat climatique assez anxiogène, peut-on dire. Vous allez donc passer pour l'oiseau de mauvais augure, mais essayons quand même de réaliser ce que va donner la crise climatique. Quel impact a-t-elle ou aura-t-elle dans les prochaines décennies sur la vigne? Qu'est-ce que l'on peut dire?
Alors, ce ne sont pas vraiment des bonnes nouvelles, en tout cas pas pour tout le monde, mais pour certains, ça sera des bonnes nouvelles. Déjà, d'ici 2050, on sera aux 2 degrés de plus. Ça, c'est rien que l'inertie ferait que même si on changeait tout aujourd'hui de notre système actuel, en fait, l'inertie du système ferait qu'on, de toute façon, on sera à 2 degrés de plus. Après, c'est après 2050 que les scénarios divergent, quoi, selon ce qu'on décide de faire collectivement. Donc le scénario, on va dire, optimiste, c'est qu'on change vraiment de voie et on arrive à maintenir la hausse des températures à 2 degrés, 2 degrés et demi jusqu'à 2100. Mmh. Voilà. le scénario pessimiste, mais c'est le scénario vers lequel on se dirige actuellement, c'est plutôt 4 degrés de plus en 2100.
Ça, c'est le GIEC, notamment.
Voilà, ça, c'est les scénarios du GIEC.
Cette hausse des températures. Voilà.
Et à l'INRAE, ils ont calculé que pour le vignoble français, c'est entre 2 degrés et 3 degrés que la vigne commence à être vraiment en danger. Enfin, pas la vigne, le vignoble. Voilà.
Donc, concrètement, des températures en hausse, ça, c'est une certitude, hein, on ne va pas y échapper.
Ah oui, c'est...
Et des aléas climatiques avec des accidents climatique plus fort, un climat aussi qui se radicalise, qui s'extrémise, des périodes de gel, de sécheresse.
C'est ça. En fait, les températures vont augmenter, ça c'est sûr et certain. Après, sur tout ce qui est pluviométrie, gel, sécheresse, etc., évidemment, c'est un peu plus difficile de prédire pour les climatologues avec précision et certitude. Mais malgré tout, ils arrivent aujourd'hui, ça fait un peu un moment qu'ils sont sur le sujet. Jusqu'à présent, ils ne se sont pas trompés, donc on peut quand même leur faire confiance. Effectivement, donc baisse de la pluviométrie, surtout dans le sud. Voilà.
Elle peut augmenter dans le nord, par contre. C'est-à-dire moins d'eau dans le sud, plus d'eau dans le nord.
L'hiver, ça va augmenter. L'été, ça va diminuer dans le sud, etc. Donc voilà, il y a toujours des moyennes. Et puis évidemment, d'une région à l'autre, il y aura des petites différences. D'ailleurs, aujourd'hui, les chercheurs, ils vont essayer d'aller jusqu'à la précision de la parcelle pour voir vraiment dans le détail où aller, etc. Et après, il y a la question du gel. Et là, c'est un peu contre-intuitif, mais voilà, on va peut-être en reparler. Mais voilà, avec la hausse des températures, le risque du gel pour la vigne augmente, et pour les cultures en général, hein, parce que la vigne, du coup, le printemps est plus précoce, la vigne fleurit, enfin, débourre plus rapidement, et du coup, la période de risque pour la vigne est plus large. Voilà. Donc
ça veut dire que la vigne est en fait
augmente.
Plus vulnérable par le fait que c'est les printemps sont plus doux, et elle opère sa croissance, et tout d'un coup, poum, coup d'arrêt.
Exactement.
Avec du gel.
Voilà, même s'il y a moins de gelée, la vigne est plus exposée.
Et cela, concrètement, signifie que ça représente évidemment, un danger pour des appellations au sud, mais également de nouvelles opportunités pour des vignobles qui pourraient apparaître dans les régions septentrionales.
C'est ça. En fait, la ligne de démarcation entre les zones qui sont adaptées à la vigne et celles qui ne sont pas adaptées, elle est en train de bouger et de remonter vers le nord. Et effectivement, des régions qui n'étaient pas viticoles, en fait, la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, même la Belgique, aujourd'hui, sont en train de le devenir...
Des projets de plantation de vignes en Suède, on va le voir, mais...
Et depuis 2016, c'est autorisé, donc voilà, c'est aussi pour ça que ça
même
se développe.
Même l'IGP pour les vins de France, l'Île-de-France, on va planter de la vigne sur la maison de la radio.
Après, en Île-de-France, on vous dira que c'est une tradition qui remonte à de très nombreux siècles, hein, cette tradition viticole.
Globalement, une église égale une vigne partout, quand bien même ça n'était pas assez mûr. C'était vraiment la religion qui a guidé un peu tout ça. Mais pour autant, ça existait, oui.
Mais en Bretagne aussi.
Valentin Morel, dans votre essai, qui est vraiment passionnant, hein, j'ai pris énormément de plaisir à sa lecture, vous racontez le quotidien d'un jeune vigneron comme vous, qui est dans le métier à la suite d'une reconversion depuis moins de 10 ans. Et vous racontez notamment le désarroi, les doutes, les questionnements qui bouillonnent dans votre cerveau à la tête d'un domaine dans le Jura. Et on peut dire quand même que vous avez eu un peu la choumoune. C'est-à-dire que vous avez commencé en 2014, vous vous êtes pris de plein fouet tous les dérèglements climatiques possibles et imaginables au fil de vos différents millésimes.
C'est ça, c'est comme ça qu'est né le livre en fait au printemps 2021, qui était quand même un printemps assez tragique. On a gelé mi-avril 2021, il y a presque 2 ans, là, un peu plus de 2 ans. Et puis dans le mois qui a suivi, 5 collègues vignerons se suicident quand même, c'est quand même assez grave. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais regarder dans le rétroviseur depuis mon installation. Et puis j'ai remarqué que chaque année avait été l'occasion d'un nouveau superlatif, c'est-à-dire le plus fort gel depuis, la plus grosse attaque de mildiou depuis, première canicule, puis en fait deuxième canicule, puis premier gel, puis deuxième... Puis en fait, si chaque année est l'occasion d'un nouveau superlatif, l'utilisation d'un superlatif n'a plus de sens, puisqu'il sert justement à comparer. Donc quand chaque année il y a une nouvelle comparaison, ça n'a plus de sens, et du coup c'est aussi le métier qui perd son sens et sa valeur. C'était toute ma question, c'est de m'interroger sur le sens et la valeur du métier de vigneron.
Et face à ce climat qui se radicalise, face à tous ces aléas que vous avez subis, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et d'opérer un virage que vous allez nous raconter dans un instant. Ce pourrait être une solution qui concerne bien d'autres vignerons que vous, les fameux cépages hybrides. Derrière la vitre de la régie, Laurent Thomas, Antoine Teboul, Fabrice Rivaud, dans un instant on explore justement ces différentes solutions. Il y en a beaucoup, hein, de l'irrigation aux cépages hybrides, en passant évidemment par la plantation de vignes dans de nouveaux territoires. Eh bien, on en parle juste après. Hiding Out in the Open de Feist, une artiste canadienne. Tiens, tiens, le Canada, justement, un vignoble qui n'hésite pas à faire appel à ce que l'on appelle ces fameux cépages hybrides. On trinque dans tous les sens du terme sur France Inter. Everybody's got their shit. Who's got the guts to sit with it?
Ils se sont aperçus que les cépages américains résistaient au phylloxéra naturellement. L'Amérique nous a amené le mal, mais on a pu trouver chez elle le remède.
Les vignes résistantes ont bouleversé les vignobles une première fois au 19e siècle. Ne sont-elles pas aujourd'hui une piste pour une viticulture durable ?
C'est quelque chose qui marche, quoi. C'est pas une vue de l'esprit. Là, on a une vigne qui n'est pas traitée, on a une belle récolte, hein. Encore une fois, là, on le voit.
Bravant une législation extrêmement hostile, des paysans rebelles n'ont jamais cessé de cultiver les interdits.
Nous, en tant que paysans, on n'a pas envie de revenir à des cépages qui soient phytodépendants.
C'était un extrait d'un documentaire que vous avez peut-être connu, Valentin Morel.
Tout à fait, oui. Vitis prohibita.
Exactement, un documentaire de Stéphane Ballet qui enquête sur l'histoire et le potentiel des cépages dits résistants et interdits. Alors pour visionner ce film, hein, qui date de 2018 je crois, on vous indique le lien sur la page internet dont on va déguster.
Oui, vous pouvez même l'acheter en VOD, donc vous pourrez le regarder à tête reposée.
Dans l'introduction de votre essai intitulé « Un autre vin, comment penser la vigne face à la crise écologique » chez Flammarion, Valentin Morel, sorti il y a quelques semaines, eh bien voilà ce que vous écrivez. Comment continuer à être vigneron quand la vigne et le vin déraillent ? Incapable de me résigner à un autre monde sans vin, je me dis qu'il faut peut-être songer à un monde nouveau avec un autre vin. Et cet autre vin, ce pourrait être, c'est un des engagements que vous vous êtes choisi, un vin issu de cépages hybrides. Alors, je suis sûr que la plupart de nos auditeurs n'ont jamais entendu parler de ces cépages hybrides. D'ailleurs, on peut quand même dire que le mot n'est pas très réjouissant. Moi, quand je pense hybride, c'est un peu mal connoté. On pense à ces légumes hybrides, vous savez, qui empêchent les paysans de récolter les graines de leurs propres légumes parce que l'année suivante, ils sont infertiles, en
fait. Tout à fait.
Mais alors, un cépage hybride, d'où ça sort ?
C'est ça.
Et qu'est-ce que c'est ?
Je vais essayer de simplifier pour que ce soit pédagogique. Et pour les comprendre, il faut remonter au mi-temps du 19e siècle. Je vais résumer en disant tout se passait pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles de la viticulture, jusqu'en 1845. À ce moment-là, pas de chance, des botanistes anglais ramènent un petit champignon des États-Unis d'Amérique, l'odium. C'est un petit champignon qui détruit les récoltes. Quelques temps après, le phylloxéra arrive. Lui, c'est pas un champignon, c'est un puceron. Alors lui, il est le responsable d'un des plus grands malheurs de la vigne, puisqu'il a détruit énormément de vignes. Lui, le puceron, c'est un puceron qui est sous le sol et qui mange les racines de la vigne. Et quelques temps après, le mildiou arrive, le dernier, c'est le coup de grâce. Et lui, c'est aussi un champignon qui détruit aussi le feuillage et les récoltes. Et il faut comprendre que ces trois fléaux sont tous arrivés d'Amérique. Il faut comprendre ça pourquoi. C'est la mondialisation, les prémices de la mondialisation qui les amènent. Et c'est important à comprendre parce que ça veut dire que en Amérique, il y a bien pourtant des espèces de vignes, d'autres espèces de vignes. En Europe, c'est Vitis vinifera, celle qui s'appelle vinifera, ça veut dire pour faire du vin. Donc c'est la vigne qualitative pour faire du vin. Et en Amérique, il y a d'autres espèces de vignes qui ont coévolué avec ces fléaux et donc qui leur sont résistantes. Il faut bien comprendre que ces trois fléaux ont bouleversé la pratique de la viticulture. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Rien n'est plus jamais comme avant à partir de ce moment-là. Donc, contre l'oïdium, qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé d'utiliser du soufre maintenant. Mm-hmm. Du soufre, je parle bien du soufre à la vigne. Parce que parfois, il y a une confusion avec les sulfites dans le vin, ça n'a rien à voir. Donc, l'oïdium, c'est le soufre. On est obligé de traiter les vignes. Là, en ce moment, entre le début mai et la fin du mois de juillet, on traite tous les 10 jours en bio la vigne au soufre. Si vous n'êtes pas en bio, vous utilisez des produits systémiques qui pénètrent dans la vigne. Mais en tout cas, on ne s'en est jamais défait et on est obligé de cultiver la vigne avec ce problème qu'est l'oïdium. L'autre fléau, c'est le phylloxéra, ça c'est plus connu. Là, c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple, bien que c'était compliqué aussi, mais pour lutter contre le phylloxéra, on a greffé la vigne. Puisque les vignes américaines étaient résistantes, on a ramené des bois de vigne américaine et on s'en sert comme porte-greffe. C'est-à-dire que la vigne américaine est simplement le support racinaire de notre greffon, c'est-à-dire de notre cépage européen. Donc maintenant, c'est important à comprendre, à partir de ce moment-là, 1880, toutes les vignes que vous voyez sont toutes greffées sur un système racinaire américain. Mm-hmm. Et puis, le mildiou, bon, bah, dernier petit problème, quelqu'un trouve que le...
Tout petit.
Voilà, petit. Heureusement, quelqu'un trouve que le sulfate de cuivre est efficace contre le mildiou, donc ça veut dire concrètement que à partir de ce moment-là, on est obligé de traiter les vignes tout le temps, en fait tous les 10 jours, au soufre et au cuivre pendant la période végétative.
Et ce sont d'ailleurs des substances autorisées
en bio
dans la viticulture, beaucoup pratiquées. Ouais. Hein.
Mais c'est intéressant de comprendre que le phylloxéra a été combattu par un moyen biologique, mécanique, c'est-à-dire le greffage, il n'y a pas de pesticides. Alors que l'oïdium et le mildiou, eh ben, ils requièrent nécessairement des pesticides. Pesticides, y compris bio, mais c'est bien des pesticides, le soufre et le cuivre.
Vous qualifiez Vitis vinifera, qui regroupe tous les grands cépages que l'on connaît. Vous, en l'occurrence, vous êtes dans le Jura, on sait qu'il est question de Savagnin, de Poulsard, de Trousseau, de Chardonnay.
De Chardonnay, de Pinot Noir. Voilà.
Absolument. Tous ces cépages-là, vous les qualifiez de phytodépendants. Ils sont en quelque sorte un peu drogués à ces substances.
C'est un clin d'œil à Vincent Pujibé, qu'on vient d'entendre d'ailleurs dans le documentaire, et c'est lui qui parle de phytodépendance. C'est un terme qui est très fort, c'est une punchline, hein, évidemment, phytodépendance. Ça veut bien dire que la vigne est devenue dépendante aux produits phytosanitaires. Et à ce moment-là, c'est très intéressant de le constater, en 1880, il y a deux types de viticulteurs. Il y a ceux qui se disent, bon, c'est pas possible. On ne peut plus, on va pas se résoudre à traiter la vigne tous les 10 jours avec du cuivre et du soufre. D'abord parce que ça coûte cher de traiter les produits avec du cuivre et du soufre. Faut acheter les produits. Puis en plus,
c'est pas anodin non plus pour la vie du sol.
En plus. Et puis à l'époque, les vignerons sont des polyculteurs qui ont aussi des vaches, des foins, des céréales, des moissons à faire. Et au mois de juin, juillet, ils ont autre chose à faire que d'aller barbouiller les vignes au soufre et au cuivre. Donc c'est comme ça, en fait, qu'à un moment, des hybrideurs, c'est-à-dire des spécialistes de botanique, en fait, hein, se disent, bon, bah, ils avaient identifié que les vignes américaines étaient résistantes, en fait, à toutes ces maladies, puisqu'elles avaient coévolué avec. Et ils se sont dit, on va faire un croisement par pollinisation, c'est-à-dire par reproduction sexuelle. C'est très simple, hein, c'est un moyen, là encore, mécanique. Et donc ça se passe en ce moment, là, au mois de juin, quand la vigne est en fleur. Il faut castrer la vigne parce qu'elle est autoféconde, donc il faut l'empêcher de se féconder. On enlève les 4 étamines. On met un petit coup de pollen d'une vigne américaine avec laquelle vous voulez féconder. Et puis, le grain de raisin est un nouveau grain de raisin hybride. Vous semez le pépin de raisin de ce grain, et puis vous avez une nouvelle plante.
Et on obtient effectivement des croisements de vignes. Hein, donc, alors, il ne s'agit pas du tout, attention, hein, pour nos auditeurs, de variétés de vignes génétiquement modifiées.
Non, pas du tout,
il s'agit vraiment, en fait, d'hybridation, de croisements.
C'est un croisement sexuel. Je veux dire, la nature fait ça toute la journée.
Vous pouvez le faire sur votre balcon, dans une jardinière.
C'est ça.
Une abeille
qui se développe, qui se promène, pollinise une fleur.
Donc, et on obtient des variétés de raisins au nom plus ou moins farfelu, avec parfois des numéros pas très romantiques.
Ben, c'est ça. Parce que le problème, c'est que pour faire un cépage hybride, il faut planter. Il y a une probabilité de 1 sur 10 000. C'est-à-dire qu'il faut planter au moins 10 000 pépins pour être sûr d'avoir un cépage qui soit résistant, qui fasse du raisin et que ce raisin soit qualitatif en vinification. Quoi. C'est ça que ça veut dire. Donc vous êtes obligé d'en semer beaucoup des pépins. Et le seul moyen que vous avez d'identifier le pépin, puisque vous avez des alignements entiers de pépins, bah c'est, tiens, ce pépin-là qui a fait une belle plante, il est dans le troisième rang. Et c'est le 9e du 3e rang, on a qu'à l'appeler 309. C'est comme ça que c'est né, en fait, les noms. Et puis après, il y a eu des noms commerciaux un petit peu pour les rendre un peu attractifs, quoi.
C'est à partir de 2017 que vous avez fait le choix de ces cépages hybrides, sachant bien entendu que vous êtes dans une appellation où ils ne sont pas reconnus.
Tout à fait.
Puisque par ailleurs, vous continuez à travailler des cépages traditionnels, oui. Savagnin, Chardonnay pour le blanc, Trousseau, Pulsar pour le noir, mais ces cépages hybrides prennent une place importante dans votre domaine.
En tout cas, j'aimerais bien qu'ils en prennent un peu plus de place. Pour le moment, c'est peu, mais j'aimerais bien arriver à 20-30% du domaine.
Comment s'appellent les hybrides que vous avez plantés?
Céval Blanc, Rayon d'Or, c'est des noms très poétiques, Rayon d'Or, Souvigné Gris, Sauvignac, Planté, plein de petits noms comme ça, très, très sympathiques.
Vous les avez découverts en Allemagne, ces cépages?
Les nouveaux hybrides, en fait, les hybrides donc, sont nés, comme vous l'avez compris, dans les années 1880, et puis après... Bah évidemment, les hybrideurs ont sans cesse amélioré leurs pratiques. Et on hybride encore aujourd'hui. L'INRA fait des hybrides. Les Suisses et les Allemands sont beaucoup plus en avance que nous parce qu'ils ont jamais arrêté d'hybrider. Donc eux, ils ont vraiment des hybrides très qualitatifs.
Il y a la dimension administrative et légale en France qui interdisait la commercialisation. Donc l'Allemagne a servi aussi de laboratoire.
Et la Suisse aussi, hein.
Et la Suisse, voilà.
Mais c'est vrai que ces cépages hybrides, on va le voir, hein, ont très mauvaise presse. Ils ont même été cloués au pilori, voire maudits parfois. Interdit par les autorités qui voulaient protéger en quelque sorte des traditions, des cépages traditionnels. Et puis cette fameuse idée de terroir, c'est-à-dire de l'histoire d'amour entre un homme, un sol, des variétés de raisins.
C'est ça. En fait, il faut comprendre qu'en 1958, il y avait 40% de la surface viticole française plantée en hybride. C'est-à-dire qu'on était à deux doigts de bascule et tout aurait pu devenir hybride. C'était une hypothèse quand même. Et puis effectivement, il y a toute une campagne de calomnie, à mon avis injuste. Hein. Ils ont été injustement calomniés parce qu'ils sont, à mon avis, on va le voir, très qualitatifs. Et il ne faut pas confondre, effectivement, il y a eu 6 hybrides qui ont été interdits en 1935, qui sont peut-être pas les meilleurs, effectivement.
Par contre, les autres, notamment d'avoir des goûts qui renardent, on dit foxé, hein. Ouais, mais des goûts douteux.
Il y a un problème de traduction, c'est-à-dire que foxy vine, ça vient de l'anglais, hein. Foxy vine, en anglais, c'est la vigne qui renarde. Et les Vitis labrusca, les espèces de vignes américaines, sont des espèces de vignes sauvages qui renardent, c'est-à-dire qui se faufilent, qui rampent dans la forêt. Donc en fait, c'est la vigne qui renarde, c'est pas le vin. Alors que quand on parle d'un vin qui renarde, c'est plutôt péjoratif.
Et oui, ça sent un peu la bête, quoi.
Mais c'est ça qui est un peu absurde, c'est qu'on parle de vin foxé qui renarde, alors qu'en fait, ils sentent la fraise des bois. Alors je me demande quel est le rapport entre le pissade renard, parce que c'est ça, un goût foxé, quel est le lien entre un goût de renard puis un goût de fraise des bois. Donc en fait, ils sont l'objet, ces cépages, d'immenses malentendus que j'ai essayé de dissiper.
Et vous le faites très bien dans un essai parfaitement convaincant. On va essayer aussi de se réconcilier avec ces cépages hybrides. Vous versez dans nos verres une cuvée qui s'appelle ?
Hommage à la canaille.
Ah, hommage à la canaille.
C'est un hommage à un groupe de rap et puis aussi un clin d'œil à la Commune de Paris, puisque c'est quand même le vin du peuple. Vous avez compris qu'il ne nécessite aucun traitement. Mm-hmm. Donc ils ont un coût de production beaucoup plus faible, beaucoup plus abordable. Et c'est aussi mon idée. Je suis un progressiste et j'y tenais de faire un vin accessible à tout le monde.
Goûtons-le ensemble. Petit commentaire de dégustation de Dominique dans un instant. Julie Reux, c'est quoi le problème avec les cépages hybrides? Certains vignerons qui travaillent évidemment des cépages traditionnels dans tous les vignobles de France considèrent que c'est un peu le cépage du paresseux, dans la mesure où il est résistant à toutes les maladies, qu'il ne demande pas vraiment une ingérence ou un énorme travail du vigneron à la vigne. Est-ce qu'il y a de ça?
Il y a plein de préjugés effectivement qui tournent autour des hybrides. Moi, ce que j'ai entendu par exemple récemment, un caviste qui m'a dit « Non mais moi, je défends les vins de terroir. Donc les hybrides, c'est pas possible. » Voilà, j'ai aussi rencontré des vignerons qui ont planté des hybrides et qui disent veulent vouloir faire des vins de terroir. Donc voilà, il y a cette idée là vins de terroir. Il y a le goût, il y a effectivement le rapport au travail. Je pense que en fait on a tellement l'habitude d'un certain type de vin que l'idée d'en changer, etc., c'est compliqué. Après, il y a aussi quand même autour des hybrides des questions qui restent en suspens, quoi. Par exemple, la résistance, elle est pas non plus miraculeuse. Il faut encore traiter.
Ah.
Une, deux, trois, enfin ça dépend.
Vous traitez Valentin Morel ?
Moi, les miennes, je ne traite pas du tout.
D'accord. Mais voilà. Cette résistance, en fait, ça peut évoluer.
Il y a un doute.
De nouvelles pathologies peuvent apparaître.
Si vous voulez, plus on a avancé dans le temps, plus on a augmenté la part de gènes Vitis vinifera dans l'hybride pour augmenter la qualité. Donc c'est-à-dire que les hybrides d'aujourd'hui, qu'on crée aujourd'hui, sont effectivement, il y a un risque de contournement de la résistance. Par contre, les vieux hybrides que j'ai moi, par exemple Rayon d'Or, Céval Blanc, eux, ils sont résistants depuis 130 ans. Donc moi, personnellement, je pense qu'ils sont résistants.
Assemblage entre combien de cépages hybrides dans Hommage à la Canaille?
Donc Hommage à la Canaille, c'est un assemblage de Rayon d'Or, ouais. Céval Blanc, Sauvignac et Souvigné Gris. Il y a deux vieux hybrides et deux nouveaux hybrides.
On est en 2020.
C'est un 2020, voilà. Le vin est...
La grande question, Dominique, parce que souvent, notamment, on vous rit un peu parfois au nez, vos voisins sont sceptiques, certains de vos voisins vignerons... Parfois, certains d'entre eux sont très prestigieux. Vous regardez un peu...
De travers.
Oui, on va dire de travers. Et en utilisant justement des cépages de travers. Peuvent-ils, ont-ils la capacité, le potentiel pour refléter un terroir comme celui du Jura, qui est évidemment très connoté avec ses cépages historiques, Dominique ?
Le reproche qu'on pourrait former peut-être, c'est la jeunesse du patrimoine végétal. Les sélections massales sur les cépages dits traditionnels se font sur des décennies et beaucoup d'observations. Donc ça, laissons un peu le temps au temps, on est sur un geste agricole, pas plus d'une récolte par an, donc c'est par définition un geste lent. Donc on va savoir le dire, il y a déjà ce travail qui est en cours, on a des domaines qui ont eu valeur de laboratoire, qui sont un peu entrés par effraction aussi, pour contourner la loi, où l'administration parfois a un petit peu fermé les yeux.
Parce que là, vous faites du vin de France, forcément.
C'est obligatoirement.
Tu ne peux pas faire partie d'une appellation avec des cépages qui ne sont pas reconnus.
Quelques appellations les reconnaissent, mais dans le Jura, ce n'est pas le cas.
Et au final, quels seraient les freins ? Les freins, c'est la sanction du verre, les gens qui vont déguster. Donc mon conseil, ce serait pour finir de convaincre avec ces vins-là, entrer là encore par effraction, servez-les en carafe, sans étiquette, et vous gommez tous les a priori, positifs ou négatifs par ailleurs. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous allez avoir l'assentiment, vous allez avoir une validation par le goût qui va être porté par les consommateurs. Ou pas, puisqu'on parle de goût.
C'est drôlement bon ce qu'on est en train de goûter.
Celui-ci, il est...
Avec une finale bien saline.
Ouais, puis il y a un rapport tactile aussi, il y a une empreinte tactile sur la langue, ce qui peut un peu faire défaut sur certains vins. Si on voulait le définir, je dirais qu'il est assez longiligne. Et je serais même tenté de vous répondre par une question. Quel degré alcoolique, Valentin ?
Ça fait 11,5.
Voilà.
C'est léger.
C'est mieux que ça. Bon. C'est un vin extrêmement moderne. Et quand on interroge le futur, je pense que c'est une partie de la solution.
Dans votre encépagement, on rappelle le nom de votre domaine, hein, les pieds sur terre.
C'est un clin d'œil à France Culture, on peut le dire ici.
Oui.
Bien entendu, ce sont de grands amis, France Culture. Et c'est aussi un clin d'œil à votre réalisme, votre pragmatisme. L'idée de vous organiser face à la crise climatique avec vos propres solutions. C'est quoi le pourcentage de cépages hybrides dans votre encépagement ?
J'en ai à peu près 8%, mais j'aimerais bien arriver à 20-30%.
Ouh ! Ah ouais, donc vous êtes carrément convaincu ?
Ce qui
est intéressant d'ailleurs, c'est que quand vous faites goûter ça à l'aveugle à vos copains vignerons, au départ ils trouvent ça bon, puis ils changent un peu d'avis quand vous leur dites ce que c'est.
Un jour, il y a un collègue qui est venu, je lui ai fait une dégustation. C'est un éminent collègue du Jura qui est très très fort, et je lui fais goûter. C'est exactement ce vin-là que je lui ai fait goûter. Et puis il est arrivé à l'aveugle, j'ai pas dit ce que je présentais effectivement, puis il me dit ah dis donc c'est un chardonnay. Je dis non. Il me dit bah c'est un savagnin. Il y a vraiment la tension du savagnin.
Non.
Ben je lui dis non. Et il me dit non mais il est vraiment bon. Dis donc. Je lui dis c'est mon hybride. Ah il me dit maintenant que tu le dis. C'est vrai qu'il manque un peu de matière, mais c'est seulement quand j'avais dit que c'était un hybride qui manquait de matière.
Grosse barrière psychologique aussi.
Mais c'est normal, on a tous des biais psychologiques, socio-culturels. Donc en fait, je leur en veux pas tellement. Mais mon idée, c'est pas tellement de convaincre des vignerons. Mon idée, c'est de, parce que je veux dire, c'est une question politique. Quel vin voulons-nous boire ? Donc mon livre et même ces vins-là, ils sont destinés. Je veux sortir ces questionnements-là du débat confisqué par les techniciens. C'est pas aux vignerons, et c'est pas aux œnologues, ni aux sommeliers, quoique les sommeliers sont plus ouverts, mais c'est pas à eux de décider quel vin on veut boire. C'est à la démocratie, c'est aux gens, c'est pour ça que c'est un sujet politique. C'est pour ça que mon livre est grand public, parce que c'est aux gens, c'est la démocratie de trancher ça.
Et sujet d'autant plus politique qu'on est encore une fois face à un changement climatique qui est en train de tout déstabiliser, y compris la façon dont on fait le vin, la façon dont on va le boire et la façon dont il est composé. Et son goût. On va passer d'un fruit, le raisin, à une céréale, le maïs, avec notre chroniqueuse chef Manon Fleury.
France Inter. On va déguster.
Votre récit, Valentin, m'a fait penser à la situation que rencontrent beaucoup de producteurs aujourd'hui. On comprend les obstacles que la nature vous oppose, la difficulté de la culture de la terre, alors que l'espoir ne vous quitte jamais. Cela m'a donné envie de vous parler d'un exemple d'agriculteur heureux qui a su tirer parti de la manière la plus cohérente de ses ressources et de son terroir. J'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques semaines Yon Arlouchet dans son Pays Basque à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. Yon est à l'origine de la réintroduction à partir des années 2000 du maïs grand roux basque Arto Goria, une variété ancienne cultivée dans cette région dès le XVIe siècle et qui avait largement disparu. Yon a su tirer parti de ses terres et de l'élevage transmis par sa famille. Le maïs qu'il cultive lui sert d'abord à nourrir ses vaches, qui produisent du lait. Mais comme cette variété est particulièrement goûteuse, Yon a eu l'idée de la commercialiser. Sa ferme est répartie entre deux activités complémentaires, même si l'élevage reste prioritaire. Autre bénéfice, cela lui permet d'organiser une rotation entre ses terres, qui sont alternativement occupées par l'élevage et la culture maraîchère. Aujourd'hui, il produit deux types de farine de maïs et une polenta bio. Il m'a fait découvrir les taloa, des galettes typiques du Pays Basque, faites à base de sa farine. C'est vraiment, évidemment, super bon.
Délicieux.
Pour défendre cette variété, Yon et ses collègues ont fondé le collectif Artogoria en 2016 afin de se réapproprier le savoir-faire local autour des semences paysannes. Dernier élément de ce cercle vertueux, Yon utilise le lait de ses vaches pour produire de délicieux yaourts qu'il vend à Paris, notamment dans les magasins Terroir d'Avenir ou dans des cantines scolaires du Pays Basque. Vous le voyez, son écosystème fait sens. Chaque élément de sa production participe à la rentabilité de sa ferme. Et c'est peut-être ça, le modèle d'une autre agriculture, pour paraphraser le titre de votre livre, Valentin. Comprendre son environnement, en tirer le meilleur parti, rechercher la qualité et surtout garder son authenticité. Alors pour Yon et ses produits magnifiques, j'ai voulu vous proposer une recette aussi simple que durable.
Nous l'avons dans nos petites coupelles sous nos micros. À vos fourchettes les amis.
Une polenta à base de maïs grand roux que vous pourrez trouver désormais facilement dans les grandes surfaces ou sur internet. Comme cette variété cuit rapidement, beaucoup plus rapidement qu'une polenta classique, elle cuit à peu près en 20 minutes alors qu'une polenta classique c'est plutôt 50 minutes.
Wow.
Je la prépare à l'aide d'un bouillon d'oignon jaune qui remplace le lait pour plus de légèreté et qui apporte un goût intéressant. Versez l'équivalent de deux grosses louches sur la polenta de manière à ce qu'elle absorbe presque tout le liquide. Vous la cuisez à feu doux, un peu à la manière d'un risotto, en répétant régulièrement l'opération pendant une vingtaine de minutes. Le grain de polenta de maïs grand roux a un côté évidemment plus ferme que les polentas classiques, et donc normal qu'il reste un petit grain sous la dent. Et pour rester cohérent avec l'approche agricole de Yon, je vous propose d'ajouter un peu de yaourt de vache, que vous mélangerez à la fin de la cuisson à l'aide d'un fouet. Le yaourt apporte de l'acidité et de la gourmandise à la polenta. Une fois qu'elle est prête, je vous propose de la garnir de fruits et de légumes. Aujourd'hui, des fèves et des cerises, parce que j'aime beaucoup le mélange fruits-légumes. Vous obtiendrez une polenta rustique, au goût profond de maïs, acidulée par le yaourt, en étant raffinée grâce à la présence des fèves et des cerises.
Rustique est tellement céleste, en fait. Quel régal. On a quand même, dans l'émission, la chance d'avoir une des chefs les plus talentueuses de sa génération, Manon Fleury, avec cette polenta de maïs Artogoria, grand roux basque. En voilà une variété rustique vraiment très très intéressant. Vous aimez ou pas ?
J'aime beaucoup ce croquant et je crois que je m'entendrais bien avec ce camarade paysan qui, comme
ouais,
moi, en fait, on partage la même chose. C'est-à-dire moi, je suis membre de la Confédération paysanne. C'est un réseau de gens qui voient le métier de paysan de manière globale. C'est-à-dire que c'est pas uniquement. On parlait tout à l'heure de qualité du vin. Pour moi, les qualités du produit agricole, c'est pas uniquement le vin dans le verre ou le produit dans l'assiette. C'est une globalité. C'est-à-dire que vous pouvez me sortir un grand chardonnay qui a été produit avec des produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Ouais, ça me pose un problème. Mm-hmm. Alors qu'un hybride, par exemple, comme ça, qui est fait dans une logique paysanne à la vigne, ça a beaucoup plus de sens global, cohérent.
Vous dites grand chardonnay, ça pose la question du bon, du coup. Vous dites un grand chardonnay, vous lui reconnaissez des vertus, et derrière, on ébrèche un
mais
peu son image.
Mais moi, je ne sépare pas le vin dans le verre de sa manière d'être cultivé à la vigne.
Évidemment.
Je suis un paysan.
Et vous pouvez faire des vins naturels, puisque c'est votre philosophie, appliquée à ces cépages hybrides.
Eh ben c'est le cas.
Il n'y a pas de paradoxe.
Non, mais à mon avis, c'est un prolongement. Ben pour moi, alors le vin naturel a constitué une première extension du domaine du goût. Et alors les hybrides, c'est encore un prolongement de cette extension.
Fabuleux terrain d'exploration. Le vignoble français face à la crise climatique, c'est notre sujet du jour.
On va déguster. Sur France Inter.
Alors tu vas voir, celui-là il est sympa, il a des notes fruitées, une touche de groseille, et sur la longueur il tire sur la mûre sauvage.
Et il sent l'œuf.
Oui, après c'est un vin nature.
Voilà, réponse de ma réalisatrice. Petit pied de nez à Valentin Morel. Cher Julie Reux, l'irrigation, évidemment, cette question est aussi sur toutes les lèvres. Question brûlante, voire polémique, dans un contexte où l'eau est une ressource capricieuse, qui tend à se raréfier avec le changement climatique, peut-on s'en servir de plus en plus pour les besoins de l'agriculture en général et de la viticulture en particulier ?
Alors, pour commencer à expliquer, il faut déjà comprendre, en fait, la vigne est une plante qui résiste à la sécheresse. Voilà, en tout cas, elle est connue pour ça quand même. C'est une plante qui se développe dans plein de climats différents, etc. Elle s'adapte à plein de choses, donc... Voilà, c'est quand même une plante qui s'adapte. Malgré tout, elle a besoin d'eau pour faire du raisin. Et surtout, plus la chaleur augmente, plus elle a besoin d'eau. Comme nous, plus on a chaud, plus on transpire. La vigne, c'est à peu près pareil. Donc, voilà, déjà, enlever cette idée que la vigne pousse même quand, enfin voilà, elle pousse dans le désert, mais voilà, pas forcément la façon dont on voudrait.
Elle peut aussi souffrir de stress hydrique. Elle peut mourir, voire carrément cramer sous l'effet du soleil.
Tout à fait. Et il faut aussi comprendre que les vignerons ne font pas pousser de la vigne juste pour avoir de la vigne. Ils veulent du raisin. Et il faut du raisin d'une certaine quantité, d'une certaine qualité. Sinon, c'est leur modèle économique aussi qui ne tient plus. Donc voilà, faire 100 récoltes pendant une année, ça va, mais si année après année les volumes diminuent ou la qualité diminue, ça remet en cause évidemment tout l'entreprise, et si ça s'étend à tout le vignoble, quoi. Donc ça pose quand même question. L'irrigation apparaît comme la solution la plus rapide, la plus immédiate, on va dire. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de vignerons qui en recourent. Donc, les
alors, il faut savoir quand même que l'irrigation est interdite par la plupart des appellations, mais il y a souvent des dérogations à l'interdiction.
C'est
dans
ça.
Des cas extrêmes, et ça arrive de plus en plus souvent. Donc, on autorise ponctuellement les vignerons à se servir de l'irrigation pour sauver leur vigne. Hein.
Exactement. En fait, les verrous sont en train de sauter. À canicule après canicule, voilà, au début c'était normalement la règle, c'est pour sauver la qualité du vin. Aujourd'hui c'est peut-être aussi un petit peu la quantité. Bon, ce qui s'est passé, c'est que là on est à peu près 7% de la surface viticole française qui est irriguée, donc c'est quand même beaucoup moins que dans d'autres pays. En Espagne c'est un tiers des surfaces de vignes qui sont irriguées, donc
mais c'est beaucoup plus en France qu'il y a 10 ans.
Ça a doublé.
Voilà.
Voilà. Et là,
l'irrigation a doublé en France.
Ouais,
en 10 ans.
On n'a pas encore de chiffres sur ce qui est en train de se passer maintenant, mais les demandes d'autorisation pour irrigation, etc., se multiplient. Donc, à mon avis, on va découvrir que ça augmente vraiment très très fort d'année très très rapidement. Il y a quand même une question avec l'irrigation. Ça remplace. S'il y a plus d'eau, on peut mettre tous les tuyaux qu'on veut, ça règle pas vraiment le problème.
Vous m'avez dit en préparant cette émission, excusez-moi, parce que je trouve que c'est une image qui va beaucoup parler à nos auditeurs, irriguer la vigne, c'est comme quand il fait chaud dans les villes et qu'on climatise. C'est-à-dire, c'est une solution ponctuelle de confort, mais ce n'est pas une solution à long terme. C'est ce que vous appelez de la maladaptation.
Exactement, c'est le terme utilisé par les scientifiques pour essayer de comprendre ces solutions qui peuvent paraître logiques et pragmatiques, et qui en réalité, à moyen, long terme, sont contre-productives, quoi. Et l'irrigation, ça rend la vigne, et c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les scientifiques qui le constatent, la vigne devient dépendante de systèmes d'irrigation. Donc le jour où il n'y a plus d'eau, et ça peut, et ça va sans doute arriver dans certaines régions, la vigne, elle ne tient pas le choc. Donc l'autre solution, c'est au contraire de travailler sur des pratiques qui vont rendre la vigne moins consommatrice d'eau, enfin en tout cas plus résiliente, etc., pour qu'elle puisse absorber les chocs climatiques, etc. Mais voilà, ce sont des solutions plus difficiles à mettre en œuvre, surtout, dans des contextes d'aridité, planter des arbres quand il pleut pas, comme c'est le cas dans le Languedoc, ça devient compliqué, quoi.
Quand vous évoquez des pratiques côté vigne, ce sont donc des techniques de culture, des techniques culturelles. Alors là, il y a aussi un débat qui traverse la filière viticole. Dominique, vous évoquiez ce monde merveilleux des drones qui viendraient comme ça en aide, cette espèce de nouvelle viticulture high-tech. Est-ce qu'elle nous fait très envie? Ça reste à voir. Mais il y a un peu ce débat entre soit on se tourne vers l'avenir avec effectivement des solutions technologiques qui peut passer par des néologisme aussi romantique que fertirrigation, c'est-à-dire de l'irrigation et qui apporterait sa dose de médicaments ou sa dose de nourriture à chaque pied de vigne à travers un goutte-à-goutte, etc. Des fils chauffants, oulala, des panneaux solaires qui viendraient comme ça en aide à la vigne. Ou au contraire, certains décident de se tourner plutôt vers des pratiques traditionnelles du passé. Globalement, c'est toutes les techniques de l'agroécologie, l'agroforesterie, planter des arbres dans la vigne pour procurer notamment de l'ombre, changer de technique de taille pour se défendre les raisins face au soleil, etc. Dominique ?
La viticulture, ça fait partie des agricultures, la viticulture. Donc vous aurez toujours des agricultures à plusieurs vitesses, avec des gens qui ont un regard, qui pensent être tournés vers l'avenir, donc les super technologies, peut-être que ça répond à certains marchés, puis d'autres gens qui, pour nourrir ce qu'est l'avenir, s'inspirent quand même de ce qui est connu du passé et qui a fonctionné dans le passé. On aura toujours cette fracture, finalement, dans les agricultures. Même si les bio puis les natures ont toujours servi de laboratoire aux conventionnels qui, même lorsqu'il dénigrait le bio, regardait par-dessus la haie. Et ce qu'on a connu du bio, aujourd'hui, est implémenté, insufflé un peu dans les viticultures un peu plus conventionnelles.
Valentin Morel, est-ce que la culture des cépages hybrides va chez vous, je connais un peu la réponse, mais de pair avec des techniques culturelles respectueuses de l'environnement, qui s'inspirent aussi des techniques anciennes, et notamment de certaines pratiques culturelles paysannes.
C'est ça, effectivement, j'assimile souvent la viticulture de Vitis vinifera à un acharnement thérapeutique, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train d'obligé d'essayer de corriger un truc, de soigner, alors qu'avec les hybrides, on repart un petit peu à zéro, et puis ça paraît effectivement beaucoup plus résilient, et ils permettent effectivement, c'est ce que je pense, ils permettent une viticulture plus saine, moins interventionniste, donc le bilan carbone est meilleur, et le bilan anxiogène du vigneron aussi.
Ah, bien entendu. Le bilan carbone du... Et comment l'atténuer, le bilan carbone du vin? On va justement l'évoquer dans un instant, mais on va laisser la parole à Dominique Hutin qui va nous présenter un peu les nouveaux Eldorado de la viticulture de demain.
On va déguster sur France Inter.
Domaine Sainte-Expédite, vous ne le connaissez pas? Non, c'est normal.
Sainte-Expédite,
c'est normal. Nous sommes dans le 76, dans la Seine-Maritime.
Ah.
C'est Édouard Capron qui est aux commandes, c'est le nom du vigneron normand, donc. Au normand même. Alors une double casquette parce qu'il est aussi président des vignerons normands, qu'on compte au rang de 50 vignerons. 50 vignerons, alors certains jardinent un petit peu, mais on a aussi des projets extrêmement professionnels. Donc on pourrait penser qu'il y a un petit frisson exotique, mais juste à côté, je vous ai amené des vins de Hauts-de-France. Là, on est sur un dimensionnement totalement différent, dans le sens où c'est porté par un grand groupe céréalier qui réunit 130 vignerons des Hauts-de-France, 200 hectares, et ils visent 1,5 million de bouteilles dans les Hauts-de-France. Si on ajoute la démarche IGP pour les vins d'Île-de-France, on voit bien qu'il y a un déplacement de l'épicentre viticole. Donc je vous ai fait goûter ce Sainte-Expédite, c'est la cuvée Le Gris.
C'est ce qu'on a là. Hein.
C'est ce que vous avez là. Le cépage, c'est le Fromentel,
oui,
que vous ne connaissez pas non plus.
Un hybride?
Non, en fait, vous le connaissez déjà, c'est le nom local du Pinot Gris.
Ah mais oui, bien sûr.
Voilà. On peut dire n'importe quoi avec le vin, ça passe toujours, c'est génial. Donc c'est une espèce de gris assez peu soutenu. Il y a une petite coquetterie qui est écrite en petit caractère, c'est 11 degrés. Et j'évoque cette question du degré avec insistance, parce que c'est important. C'est d'abord, puisqu'on parle de réchauffement, le mot degré, il est quand même partagé entre cette question du climat et le taux d'alcool dans les bouteilles. C'est un mot-clé. Et c'est important parce que l'approche du vin a longtemps été orientée via le degré alcoolique. Par exemple, j'ai des buvards publicitaires de 1906 où le prix des vins était indexé sur le degré. Le 11 degrés valait un prix, le 12 degrés était plus cher et le 13 degrés plus cher encore. On peut aussi penser aux coopératives, par exemple, qui pendant longtemps ont rémunéré les vignerons apporteurs de raisins en fonction de ce qu'on appelait le degré hecto. On comprend bien donc en fait que c'était le degré qui primait sur la qualité. Et puis, cette question de l'alcool, elle est aussi intimement liée à l'usage que l'on fait de la boisson. Par exemple, on a connu le vin ouvrier, le vin paysan, bref, le vin de labeur, le vin reconstituement, avec une valeur sociale égale à peu près à l'eau et qui avait l'usage de l'eau. Mais on peut aussi envisager l'alcool sous un jour plus patriotique. Et là, les trois couleurs seraient moins tirées vers le blanc, rouge, rosé que le bleu, blanc, rouge. Et c'est ce qui illustre un discours d'un ministre de l'Agriculture, on est en 1922, presque un siècle, non plus d'un siècle, pardon, plus d'un siècle, 1922. On est juste au sortir de la guerre de 14-18, et le ministre de l'Agriculture, donc la voix de l'État, nous dit « Nos pères n'étaient pas des buveurs d'eau. »
Avec l'accent en plus.
« C'est pour ça qu'ils ont fait la France. Sans le pinard, elle n'aurait pas pu être sauvée en 1918. » Ministre de l'Agriculture en 1922. Donc, le pinard, la béquille psychologique du poilu, est ancré dans le récit historique national. Sauf que depuis, le statut du vin s'est un petit peu dégradé. Et depuis les années 60, la société a revu son rapport à l'alcool. Là où l'alcool pouvait constituer un rite de passage, d'intégration dans une communauté, on peut appeler ça l'apéro, hein, par exemple, tout simplement. Eh bien aujourd'hui, le rapport à l'alcool, il est régi plutôt par le gendarme, ou plutôt la peur du gendarme. Mais demain, ça nous oblige à convoquer une autre figure. Si aujourd'hui le gendarme est aux commandes, il y a une autre figure qui émerge, c'est le sobrelier. Le sobrelier. Ah. Vous ne connaissez pas?
J'en connais un.
Vous si. En connaissez un. Et ben voilà.
Manon Fleury a travaillé avec un sobrelier.
Et elle en rigole Renaud. Déjà. En fait, c'est la contraction avec deux approches qui sont même contraires. Celle de sommelier, qui va donc agencer la consommation du vin, et celle de sobre, celui qui justement repense le rapport à la boisson. Et on voit effectivement émerger de-ci, de-là, et même dans des trois étoiles. Dans des trois étoiles, donc l'image sociale des boissons, très important, et je ne parle pas des coefficients, dans des trois étoiles donc, on voit émerger cette tendance de low alcool, dans le sens de bas alcool, ou voire même de no alcool, qui a colonisé les restaurants. Je crois que Julie Rue, vous l'avez croisée aussi il y a peu de temps.
Oui, j'ai interviewé effectivement.
On peut avoir son nom ou...
Benoît Donofrio.
Voilà, il se fait appeler le Saubrelier. Donc,
vous avez travaillé ensemble,
on a travaillé ensemble pendant 9 mois, ouais.
Effectivement, ça pose la question. Enfin, le vin, l'avenir du vin, il est comment dire, questionné par le changement climatique, mais il y a d'autres choses qui questionnent l'avenir du vin, y compris la déconsommation d'alcool, effectivement, qui est même peut-être encore plus inquiétant que le changement climatique, en tout cas à court terme. C'est ça qui menace l'équilibre économique. Voilà, on arrache de la vigne aujourd'hui à Bordeaux. Bon, ça fait partie du phénomène aussi. Et c'est un peu comme si tous les voyants étaient rouges en même temps dans le vignoble, quoi.
Et ben justement, on a un petit message là des auditeurs. Géraldine Dupes, qui est vigneronne, 7 hectares de vignes à côté de Lyon, ça vous parle, François-Régis. Mmh. La Tétue, c'est le nom de son domaine. Dans le sens où le transport des bouteilles est un des premiers poids dans le bilan carbone des domaines viticoles, pour limiter l'impact, je vinifie mes vins dans Lyon et je les diffuse dans Lyon pour éviter le transport. Elle ne veut vendre que localement.
Pas d'exportation.
D'exportation, ou même, on ne traverse pas la France, de Lyon à Lyon.
Histoire de diminuer en fait le bilan carbone du vin. La question de la bouteille en verre, elle est assez taboue, mais en vous lisant Julie Reux, c'est absolument édifiant. Les bouteilles en verre pèsent actuellement entre 40 et 50% du bilan carbone d'un vin. Est-ce que ça a encore un sens d'expédier, pour notamment les Valentin Morel, qui fait partie de ces jeunes stars de la viticulture française vendues à New York, à Tokyo et ailleurs? Bah attendez, on n'entend parler que de vous. Est-ce que, et on trouve vos vins dans les meilleurs endroits, est-ce que ça a du sens de leur faire traverser l'Atlantique, par exemple, à ces bouteilles, avec évidemment tout le bilan carbone que cela suppose?
Non. Non, enfin en fait ça n'a pas de sens.
Quelle est la solution alors?
La majorité des... La solution, c'est de réfléchir à des contenants adaptés, à mon avis, adaptés à chaque moment de consommation, en fait. À chaque type de vin aussi, puisqu'il y a différents types de vins. Il y a des vins qui sont destinés à vieillir et d'autres qui sont faits pour être bu 3 mois après leur mise.
La majorité des vins sont consommés dans l'année de leur production.
Ouais.
Donc on peut poser la question du bouchon liège dans la même mesure. Pourquoi désinguer des chênes liège?
Et la bonne vieille consigne, elle a existé à une époque. Rapporter sa bouteille vide contre quelques centimes.
Ça, c'est vraiment la solution qui fonctionnerait, en tout cas, au niveau national.
Même la grande distribution se réapproprie cette dimension-là. Et les conditionnements, j'ai du Tetra Pak, là, par exemple. J'ai de la canette, là, ici. J'ai même One Glass, qui dit un peu une consommation équivalente d'un verre. Donc là, c'est un contenant un petit peu particulier. C'est une poche en forme de bouteille, mais je vous...
Super romantique.
Ou alors vous me signez une décharge avant de le déguster.
Faut une paille.
Je dis sans plaisantant, mais rappelez-vous, le bouchon synthétique, lorsqu'il est arrivé... On était contre, on est un pays latin, on était contre. Ça n'a duré que le temps
d'une
colère.
Mais le bouchon synthétique est moins...
Oui, mais on ne l'acceptait pas. Aujourd'hui, on l'a accepté. La capsule, le vin de Valentin, en capsule, par exemple.
Ah, bah justement, en parlant de vin de Valentin, on va finir en beauté, aller par une petite touche positive, puisque vous avez décidé de rendre hommage dans une cuvée à ça. Broken hearts are for assholes, are you an asshole? Broken hearts are for assholes, are you an asshole too? What you gonna do? Alors, elle a l'air bien énervée, votre cuvée.
Mais c'est exactement ça, c'est effectivement un clin d'œil à Frank Zappa, puisque lui, c'était un dadaïste qui allait au-delà, qui bouleversait un peu les codes esthétiques, et c'est tout le sens de ce vin, puisque c'est un chardonnay dans lequel j'ai fait infuser des pellicules d'hybride, ce qui est un crime, évidemment.
Donc on a un blanc qui ressemble à un rouge.
C'est ça, c'est un chardonnay qui est devenu rose, puisque j'ai mis un hybride rouge dedans.
Mais incroyable, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça génial, moi.
Ouais, je trouve ça formidable. En fait, c'est génial, tous ces vignerons qui expérimentent, qui testent des boissons, qui assemblent, qui font infuser avec d'autres fruits. Enfin, pour moi, c'est un laboratoire formidable.
Mais c'est
là qu'est le
futur. 2050, c'est la créativité.
Exactement.
C'est la créativité
Broken
qui va sauver le vin.
Voilà. For assholes, en bon français, ça donne quoi?
Je précise que c'est du second degré et que Frank Zappa avait un humour déflagrateur. Je dirais, les chagrins d'amour, c'est pour les cons. Je le dirais comme
ça. Ah ouais, assholes. Vous traduisez con. Bah, c'est gentil. Très bien. Je voudrais, cher Valentin, juste vous signaler un événement gourmand. Le Comté prend son temps. Ça se passe du côté de chez vous qui s'organise pas loin, là. La filière Comté AOP organise 7 banquets pour 150 personnes dans 7 lieux emblématiques du territoire du Comté. Au fourneau, à chaque fois, un chef local avec un chef d'une autre région de France. Ce sont des repas ouverts au public qui sont offerts, à condition, évidemment, d'avoir gagné sa place lors d'un tirage au sort. Et pour tenter sa chance, il faut s'inscrire sur le site letempsducomté.com. Les inscriptions sont en cours jusqu'à mardi prochain pour le 5e dîner qui se tiendra le samedi 24 juin dans la cour du palais Granvel qui abrite le musée du temps à Besançon. Tiens.
Ce sera un repas concocté par mon ami Vivien Sanzoni qui est
un
brillant chef
le
local.
Le parc à Besançon,
absolument.
Chef extraordinaire. Et Emmanuel Perraudin qu'on aime beaucoup, ce chef nomade. Vous allez y aller du coup?
Non, j'en ai fait un qui était avec César, Joël Césari il y a 3 semaines. Malheureusement, je peux pas tous les faire.
Un autre vin, comment penser la vigne face à la crise écologique de Valentin Morel. Lisez ce livre, il va vous éclairer sur la question du vin de demain et des hybrides. Vino Futur, votre média dédié à l'avenir du vin, cher Julie Reux et du vignoble. Vinofutur.fr pour en savoir plus et pour s'abonner. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.